Le top de la pop, c'est sur Radion.
Always in your overdraft, that's why it makes me laugh when you act like you have tons of money. Friday night photograph of the rock you had to split 12 ways with your buddies. And just because you know one Arctic Monkey song doesn't make you indie. If anything is sticky, I'm not gonna tolerate your growing pains. I'm not your babysitter, babe. It's way above my pay grade.
La matinale sur Radion.
Allez, tout juste 11h08 sur Radion. C'est la matinale qui commence. On est avec vous jusqu'à midi. Et aujourd'hui, on va parler d'une entreprise créative cocktail avec Jérôme Casgrain qui est avec moi pour en parler. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors Jérôme, déjà, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel, en comment vous êtes arrivé à la tête de cette entreprise ?
Alors, je suis sorti après des études de fin de troisième. J'étais à Cancre, mais j'avais envie de faire beaucoup de choses. J'ai fait une école de publicité pendant 4 ans, qui s'appelait l'ESAM Design à Paris. Suite à ça, j'ai été diplômé. Je suis rentré dans l'entreprise que ma mère avait montée tout juste, toute fraîche, de communication et surtout d'événementiel, dans laquelle j'ai pris des parts grâce à un projet que j'avais avec elle. J'ai racheté les ordinateurs, les logiciels et j'ai commencé mon travail de créatif pour pouvoir faire des choses qui me plaisaient, essentiellement des logos, des plaquettes. Ça a duré 15 ans, sachant que nous avons fait des événements pour de belles entreprises, de belles créations aussi, de supports de communication. Et suite à cela, au bout des 15 ans, j'ai monté Creative Cocktail à Paris, qui a eu tout juste 14 ans, le 4 août de cette année.
Alors comment l'entreprise est venue ? C'est de l'enfance déjà que vous comptiez réaliser cette avancée ?
Au tout début, je voulais dessiner des voitures. Je voulais être designer de véhicules. J'aurais pu avoir la possibilité de rentrer chez Pininfarina, mais à 10 ans, c'était un peu jeune.
Oui.
Voilà. Et l'important, je me suis recadré plus sur le graphisme. Mmh. J'aimais beaucoup mettre en avant les entreprises, les gens, et faire en sorte que ça soit beau, donner du beau. Suite à cela, j'avais commencé à dessiner des véhicules pour mes parents qui faisaient le Paris-Dakar.
D'accord.
Et c'est ce qui m'a permis de me lancer en graphisme. Là-dessus, voilà.
Les premiers dessins, c'était sur un modèle dessins, aérodynamique, c'était quoi ?
Des véhicules, justement, des 4x4, qui ont été réalisés après en miniature.
Ah, d'accord.
Qui ont été lancés par le Paris-Dakar. On avait des véhicules blancs au départ, avec que des adhésifs, c'était pas très beau. Et suite à ça, j'ai lancé la mode de faire du look de véhicule plus sympathique, plus beau.
Alors, comment l'agence a évolué depuis sa création ? Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés au cours de la route ?
Au tout début, nous étions à Paris. On a commencé dans un petit bureau à Paris de 13 mètres carrés. Les plus grands défis, c'est déjà de recommencer ce que j'avais fait avant.
D'accord.
De partir de zéro. C'est-à-dire de reprendre, de retravailler une nouvelle clientèle. D'aller chercher, il y avait 3600 agences à Paris à l'époque.
Ah oui.
Là, dans Lyon, il y en a beaucoup moins. Donc, c'était ça. Et c'était le plus grand défi, c'était surtout de retrouver de nouveaux clients, de trouver de nouvelles offres, de pouvoir faire quelque chose qui soit attirant et d'avoir une visibilité dans ce monde parisien.
Comment vous êtes arrivé dans Lyon ? Pourquoi ? Parce que c'est suite aux parents, suite...
Non, écoutez, il faut savoir qu'à Paris, c'est la course.
Ouais.
C'est la vie à 100 à l'heure. Et qu'à un moment donné, quand on entend le bruit des pompiers, des policiers, des klaxons, tout près de chez soi, à un moment donné, on se dit on n'a plus envie de rester là.
Et pourquoi ne pas être parti dans la Loire ou...
Écoute, on a fait un voyage de 3 mois avec ma petite femme. On a été voir un peu toute la France.
Mmh.
On a été voir Bordeaux, on a été voir du côté de Marseille,
d'accord,
on a été voir Troyes, partout. Et on a noté les villes. puis finalement, on a atterri là parce que mon père, qui habite à Collet, qui est un moulin, la ville étant proche de Paris,
oui,
me permettait d'avoir mes clients à Paris et mes clients dans la région. Et le côté sympathique, détendant, relaxant. Et puis la bonne gastronomie aussi. Hein.
Aussi, on est en Bourgogne quand même. Hein.
Faut y penser.
Allez, on part sur une pause musicale. On se retrouve dans un petit moment, toujours avec Jérôme Casgrain, qui est donc président, directeur. Quel poste au niveau de la société ?
Gérant.
Gérant de Créatif Cocktail.
La matinale sur Adyen.
Allez, tout juste 11h20 sur Adyen et toujours avec Jérôme Casgrain qui est directeur de Creative Cocktail. Quelles sont les valeurs et la vision qui guident Creative Cocktail en matière de création ?
La première des choses, c'est surtout l'humain. L'humain est très important à l'agence. D'abord parce que c'est la première chose que l'on fait, c'est d'être en contact avec des gens. Donc être bien avec les personnes, échanger. Être avec eux, c'est très important. La deuxième chose, c'est l'écoute. Savoir écouter les personnes, ceux dont ils ont besoin, comment ils sont, et faire en sorte qu'ils soient vraiment heureux. La troisième chose, c'est le partage. On est là pour partager avec eux. On a beau travailler dans la communication événementielle, c'est vraiment du partage que l'on fait avec ces personnes-là. Donc c'est important. Et la dernière chose, c'est la transparence. On se doit d'être transparent vis-à-vis d'eux, rien cacher, et montrer vraiment les choses telles qu'elles sont, et faire en sorte qu'on soit fluide avec eux et transparent.
Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des services que propose Creative Cocktail à ses clients ?
C'est assez long, mais on a deux pôles. On a un pôle communication et on a un pôle événementiel. Le pôle communication, lui, est là pour aider les gens à développer leur entreprise, à se valoriser, à trouver un axe de communication à travers des messages, à travers de l'image. Ça peut être leur logo, ça peut être des supports, ça peut être des slogans, des textes, des informations. On travaille sur plusieurs points dessus. On travaille d'abord sur tout ce qui est imprimé. Comme on a ici, des flyers, des plaquettes, des cartes de visite et autres. Tout ce qui est aussi roll-up, totem, pour des stands, des salons, ou ce genre de choses. Des adhésifs, voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est tout ce qui est numérique.
D'accord.
Le numérique est là depuis très longtemps. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. J'étais baigné dedans depuis tant d'enfants. J'allais aux États-Unis. On a fait nos premiers sites internet. Et travailler sur le numérique est important parce que ça nous permet de pouvoir mieux communiquer, de communiquer plus rapidement, à une grande vitesse, de meilleure manière, sur tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr, mais tout ce qui est site internet. Et quand je dis site internet, c'est assez vaste parce que ça représente tout ce qui est la création d'un site, tout ce qui est l'hébergement de ce site. Ça veut dire la sécurité aussi. Hein, c'est très important à l'heure actuelle.
Surtout, oui.
Il y a des sites qui peuvent être hackés ou repris, donc on fait très attention à ça. Et tout le travail de graphisme et d'entretien. Un site, c'est comme une voiture. Vous entretenez votre voiture, ben, il faut changer l'huile, changer les ampoules, l'entretenir. Avec la route, un site, c'est pareil.
C'est-à-dire que les protections changent au fur et à mesure que la technologie évolue ?
Oui, c'est-à-dire que les navigateurs changent, les supports changent, les fichiers évoluent aussi, la connaissance et les codes que l'on met évoluent. Et bien sûr, les hackers aussi évoluent aussi, hein, de l'autre côté.
Les hackers sont beaucoup plus puissants qu'il y a quelques années ?
Ah oui, nettement plus puissants et de plus en pire. C'est pas parce qu'on a un site petit que l'on n'est pas attaqué. On a des sites qui, quelquefois, sont attaqués 10 000 fois en un mois. pour pas forcément de gros sites, hein, parce que finalement, ils veulent se tester, voir s'il y a des failles, d'autres choses. Et on est en constante évolution, vraiment tout le temps, pour améliorer la sécurité au jour le jour.
Est-ce que c'est à l'hébergeur de protéger son client ou c'est le client qui doit se protéger lui-même ?
Non, l'hébergeur, lui, il est là pour vous guider, il est là pour sécuriser bien sûr ses serveurs, sécuriser ce que vous avez, votre site, votre blog, vos boîtes mail et autres. Mais c'est à nous, en complément, de travailler sur ce que l'on met sur ces serveurs pour pouvoir sécuriser nos clients.
Est-ce qu'il est utile de faire des sauvegardes régulièrement ou...
Ah oui. L'objectif est surtout pas les sauvegarder que sur les serveurs de l'hébergeur. On l'a très bien vu avec OVH il y a quelques temps, où OVH avait eu un problème électrique et tous ces serveurs ont été plantés. Et
oui, il y a eu un incendie.
Oui, un incendie, voilà, tout à fait. Donc là, c'est sauvegarder à l'extérieur, et pas que à l'agence, sur des clouds, les fichiers, toutes les données, et souvent, tous les jours, en automatique, et en vérifiant derrière si l'automatisme
fonctionne correctement.
Fonctionne, parce que ça peut changer.
Vous, en tant que prestataire, est-ce que vous avez des serveurs personnels pour sauvegarder les données de vos clients ?
Oui, on a des serveurs en interne, mais on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs hébergeurs qu'on utilise pour pouvoir héberger, sauvegarder les données dans des clouds et d'autres manières plus solides, sur des disques durs, mais pas que.
Au niveau de vos prestations, combien d'entreprises à l'heure actuelle approximativement vous font confiance sur le département de Lyon ?
Je dirais une cinquantaine à peu près.
Quand même.
Une cinquantaine. À Paris, on avait une vingtaine de clients, pas forcément de même taille, mais peu importe. La taille de client n'a rien à voir. C'est important, chaque personne est importante.
Quelle est la prestation la plus demandée ? Est-ce que c'est la réalisation du web ou la protection des données ?
Ben, ce qu'il y a, c'est que généralement les personnes demandent plus la création d'un site, des informations, et n'ont pas conscience de la sécurité qu'ils doivent apporter veulent payer moins cher pour pouvoir ne pas avoir forcément ça. Ils se disent, on le fait. Voilà.
Avant, c'était nouveau, les sites Internet. C'est vrai que ça arrivait sur le monde de l'Internet. Mmh. Est-ce que par la demande, les prix sont aussi chers ou ont baissé ?
Ce qu'il y a, c'est que on peut faire, pour certains, veulent faire des prix bas, très très bas même. Certaines personnes me disaient qu'ils avaient un site pour 50 euros, ce qui est ridicule. Mais ça fluctue. Ce qu'il y a, c'est que tout dépend ce que vous mettez dessus. Ce sont des devis adaptés à chaque personne, on pense pour chacun. On n'a pas de devis type comme ça. On écoute la personne, on regarde, on échange avec lui ou avec elle, et on travaille ensemble pour constituer quelque chose de très précis par rapport à cette personne.
Pouvez-vous partager avec nous un ou plusieurs projets emblématiques sur lesquels Creative Cocktail a travaillé et dont vous êtes vous-même particulièrement fier ?
Là, par exemple, ça fait 6 ans que nous travaillons pour Presse Évasion.
Ouais.
Presse Évasion, qui est un magazine numérique dans Lyon, qui fonctionne très bien avec à la présidence Thierry Brett, vraiment qui fonctionne, qui avance, qui est solide, qui est vraiment beau et dont le contenu est important. Là, on en est, je pense, à peu près au moins à 40 000 éléments dedans. Mmh. En termes d'articles, autre chose, c'est très important.
Et ça, c'est lourd à gérer ou...
C'est long et c'est lourd dans le sens où il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est pas que l'apparence d'un magazine numérique, hein. C'est tout ce qu'il y a derrière aussi, l'affichage de bannières, de choses comme par exemple du emailing ou d'autres choses, voilà.
Comment votre équipe, déjà combien vous êtes au sein de votre équipe ?
On est trois.
Pardon ?
On est trois.
Comment votre équipe aborde-t-elle les défis de créatifs pour répondre aux besoins spécifiques, surtout de chaque client ?
On se met aux normes, au goût du jour. On va beaucoup dans des salons de haute technologie. S'il faut aller en France, s'il faut aller aux États-Unis ou ailleurs, on regarde. On se met au goût du jour. On écoute aussi nos clients. Le fait de les écouter nous permet d'évoluer aussi. Chaque demande est différente, donc du coup, ça nous permet de recadrer les choses, de leur proposer des choses nouvelles qui existent et qui ne sont pas qui sont durables. Surtout durables. C'est important.
Allez, on part sur une petite pause musicale et on se retrouve dans un petit moment sur Radion.
Le cœur en errance, c'est ta mille romances à vivre, toi. Ta mille romances à vivre.
La matinale sur Radion.
Allez, tout juste 11h30, allez, on va dire 35 minutes, hein, on va pas être chauvin, hein, 35 minutes, et toujours avec Jérôme Casgrain, qui est directeur de Creative Cocktail. Alors, Creative Cocktail se situe où, à Auxerre ?
Creative Cocktail se situe au 6 boulevard Volabel. On a déménagé en avril dernier, on était rue du Mont-d'Orville, on avait un autre bureau, et là, maintenant, on est juste à côté de Casden. Sur le boulevard Volabel.
Vous êtes ouvert du lundi au...
Du lundi au vendredi.
Alors, il faut savoir qu'on est en ce moment avec une constante évolution, comme celui naturellement de la création, de la communication, etc. etc. Comment maintenez-vous l'agence à la pointe de l'innovation et surtout à la pointe des tendances ?
Nous allons beaucoup sur des salons. Dans toute la France, même dans l'Europe. Nous allons bien sûr sur des réseaux sociaux ou sur des documentations quand on rencontre nos propres prestataires. On échange beaucoup avec eux parce que eux aussi ont des apports, des échanges qui nous permettent d'évoluer. Nous aussi, on les aide à avancer. Et le fait d'aller voir des salons sur l'événement, par exemple, sur la création ou des salons d'impression en Allemagne, ou Amsterdam, ça nous permet de garder ce contact et ce niveau.
Quelles sont les principales industries ou secteurs avec lesquels Creative Cocktail collabore le plus souvent ?
Oh, c'est bien sûr, c'est toujours le domaine de l'internet, du web, là-dessus, de l'imprimé, de l'événementiel, dans tout ce qui est technologie, de tout ce qui est projection d'images, de lieux. De tout ce qui est modernisme par rapport au réseau, ce genre de choses.
Quelles sont les dernières technologies qui sont arrivées sur le marché à l'heure actuelle, au niveau web par exemple ?
Au niveau web, on a déjà dépassé tout ce qui est Web 3, on est en train d'arriver à des systèmes qui permettent de travailler, à créer des sites, bien sûr devant, derrière, les gens peuvent aller sur leur site, mettre leur code d'accès, mais composer en automatique certains sites. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles technologies qui permettent de s'adapter par rapport aux gens qui viennent sur le site, par rapport à ce qu'ils cliquent, comment ils cliquent, où ils vont.
Intelligence artificielle ?
Oui, ça, de plus en plus. Nous, on se forme à des langages comme le Python, par exemple. On travaille beaucoup là-dessus. L'intelligence artificielle nous a permis déjà, surtout en événementiel, de créer en fait des événements plus interactifs, ludique. Dans tout ce qui est par contre la création, le numérique, même si ça commence, on en a déjà vu pas mal, mais ça ne fait que commencer. Après, la difficulté, c'est la dangerosité de ce genre de choses, des images qui sont générées, des vidéos qui sont créées, et de savoir si c'est du vrai ou non.
Ça veut dire par là que pour vous, est-ce que ça va pas enlever du pain à votre planche, cette intelligence artificielle ?
Je dirais que ça va nous permettre de vérifier aussi le vrai du faux, ça va nous permettre de regarder ce qui se passe. Quand on demande de créer la ville d'Auxerre en étant écologique, et qu'elle vaut créer la ville avec plein de nature et tout, c'est bien. Mais après, la réalisation, l'arrosage et tout ça, c'est un peu plus difficile, quoi.
Et on ne sait pas le temps de pouce qu'il peut y avoir par rapport à ça. L'intelligence artificielle est fermée aux particuliers. Elle est surtout attrait vers le professionnalisme.
Oui, non, dans le sens où il y a quand même des logiciels, des applications qui permettent d'utiliser cette intelligence artificielle très rapidement avec un téléphone portable. Tout le monde globalement peut l'utiliser à partir de son téléphone, de son ordinateur. Ça se démocratise de plus en plus.
D'accord. et qu'est-ce que ça apporte aux particuliers,
aux une facilité de plus en plus, par exemple, le travail sur l'image. Travailler l'image à partir d'éléments que l'on fait en photo, détourer l'image, avant passer un certain temps, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure pour détourer une image. Maintenant, on arrive globalement bien, même pas 5 minutes ou 30 secondes à détourer certaines images.
Est-ce que ça ne va pas enlever la créativité personnelle ?
Je dirais que la créativité, il faut déjà ne pas penser que sur ordinateur. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que l'ordinateur ne fait qu'appliquer que ce que l'on veut créer, mais ce n'est pas lui qui crée réellement. Il va aider à la créativité. Donc moi, j'ai toujours des cahiers, des planches pour dessiner avec des fusains, des crayons, et je réalise. Et je remets après sur ordinateur les choses. Après, la jeunesse actuelle est plus dans recréer automatiquement quelque chose rapidement sur ordinateur avec des logiciels qui évoluent très vite.
Au niveau du web, à l'heure actuelle, on sait que la vidéo s'y est intégrée. Là aussi, est-ce qu'il y a une ouverture beaucoup plus grande vers la vidéo et j'allais dire l'abandon d'images ?
De plus en plus maintenant, les revendeurs d'images travaillent sur de l'intelligence artificielle dans le sens où ils vous proposent. Vous allez taper, par exemple, je veux une équipe de personnes qui soit dans un tel lieu aux États-Unis en train de faire quelque chose. Ils recréent cette image, ils vous proposent cette image, plusieurs images. À nous de dire, oui, c'est ça, ou je corrige. Ça peut aider à reprendre cette image, la retravailler, refaire ça. Par contre, la difficulté après, ce sont sur les droits à l'image.
Alors ce droit à l'image, il est un peu flou.
Oui, de plus en plus, parce qu'on ne sait pas qui a créé l'image, l'ordinateur, est-ce que ça a été multiplié, comme par exemple des textes, comme on le voit avec ChatGPT 4, qui lui écrit des textes qu'il prend avec son algorithme de tout le web. Mais il ne faut pas reprendre ce texte tel que, il y a quand même un sacré travail, tant pour les journalistes que pour d'autres. C'est dangereux, en fait, par rapport à ça.
Cette protection de la personne, elle est plutôt orientée vers les professionnels, parce que la personne lambda qui prend une photo, qui le met sur son compte Facebook ou autre, ne respecte pas trop ces règles.
Non, ce qu'il y a aussi, c'est que on se retrouve quelquefois avec des gens qui utilisent des images justement du web, où certaines personnes peuvent être contactées et se dire cette image a déjà existé à tel endroit.
D'accord. Voilà.
Auquel cas, nous, on vérifie toujours les sources quand on fait de la création des images avec nos clients. On leur guide, on leur dit surtout si vous faites une création avec nous, d'où vient cette image ? Qui l'a prise ? Qui l'a faite ? Quel photographe ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, d'un musée ou autre ? Vous n'avez pas le droit d'utiliser. On les sécurise vraiment là-dessus.
Une image qui est déjà publiée sur le net, avec un crédit, le crédit, il faut savoir, c'est l'auteur de la photo, est-ce qu'elle peut être republiée ?
Elle peut être republiée. La difficulté, c'est qu'il faut quand même contacter le photographe qui l'a faite, le contacter, voir avec lui dans quel cadre on peut utiliser cette photo, à combien d'exemplaires, si c'est sur de l'imprimé, si c'est sur du web, dans quel site, à combien de visibilité le site, ce genre de choses. Il faut quand même être honnête vis-à-vis des personnes qui travaillent derrière, comme pour la musique aussi.
C'est comme, pareil, les photos de paysage, c'est l'identique, hein. Ce soit de la personne, du paysage ou autre.
Peu importe les photos, ce qu'il faut, c'est que il faut toujours voir d'où vient la source. C'est très important et de ne pas l'utiliser que juste comme ça. Souvent, quand on va sur des réseaux sociaux, les gens réutilisent les images, ne changent même pas les noms, tout simplement. Donc, on se retrouve quelquefois avec des gens qui utilisent des images sur des sites. Il suffit juste de taper le nom de l'image et on la retrouve sur plein de sites.
Oui, voilà. Il faut savoir qu'il y a combien d'images sur le net à l'heure actuelle, des milliards et des milliards.
Oui, mais il y a des logiciels, des algorithmes qui permettent de chercher directement si vous avez utilisé telle ou telle image, qui maintenant, avec l'intelligence artificielle, permettent de reconnaître cette image et de l'associer à telle personne, tel photographe, par exemple. D'accord. Donc, on fait de plus en plus attention, et de toute façon, on faisait déjà attention avant.
Au niveau des particuliers, il y a des risques aussi.
Au niveau des particuliers, la difficulté, c'est surtout de mettre des personnes qu'on connaît sans demander d'autorisation, ce genre de choses. Il vaut mieux faire attention à ça. Voilà. Surtout si vous prenez des photos de gens au bord de la plage,
ouais,
pendant vos photos de vacances, et que derrière, il y avait des personnes qui se voient après, qui peuvent vous attaquer s'ils le voient. Ouais.
Alors, comment gérez-vous la concurrence dans le secteur de la création? Qu'est-ce qui distingue Creative Cocktail de ses concurrents?
Nous, c'est surtout le contact que l'on a avec nos clients et le fait d'être transparent, de faire en sorte d'être à l'écoute, de les conseiller. Tous nos clients nous disent toujours, vous êtes de bons conseils.
Rapidité d'intervention.
Toujours la réactivité. Nous, dans l'heure, dans la demi-heure, dans la mi-journée, on réagit tout de suite. Parce que sinon, on ne va pas laisser un mois, deux mois, six mois, un an, traîner des choses.
Vous allez rencontrer le client?
Ah oui, l'important c'est ça. À une époque, je faisais moins ça. Et je me suis aperçu finalement que le contact vraiment humain d'aller les voir souvent, d'échanger, de les revoir juste pour le plaisir de les voir, même pas pour leur dire ce qu'il y avait de nouveau et autre. Et puis d'autres manières de leur expliquer, voilà, dernièrement, il y a telle chose qui est sortie pour votre site, pour votre entreprise. Ça serait pas mal que vous en bénéficiez. On est là pour les conseiller.
C'est-à-dire, vous réactivez les sites, à la rigueur, les mettre à jour, ce qu'on appelle?
Ah oui, oui. On recherche toujours, on reprend toujours nos sites, on regarde tous les ans ce qu'il y a, ce qu'on peut améliorer, comment le faire, recontacter nos clients, leur dire, voilà, ça serait bien. Ou peut-être, vous avez une promotion en ce moment dans notre environnement. J'ai des clients qui donnent des cours d'anglais.
D'accord.
Paul et Milani. Ryan, qui sont juste à Venois, et de temps en temps, ça permet de regagner contact et puis de faire en sorte de leur proposer des choses qui peuvent être faites, de voir la concurrence même pour eux et de les guider. Vous avez eu telle concurrence dans votre environnement, peut-être qu'une promotion ou une aide, un service supplémentaire serait intéressant pour eux.
Voilà, il vaut mieux être partenaire que commercial.
Oui, j'ai toujours préféré, j'aime pas le mot commerce,
ouais,
commercial. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est l'humain. Donc, il n'y a pas de mot commercial. Et encore, même le mot client, pour moi, n'est pas bon.
C'est partenaire,
plus,
conseil.
Plus partenaire, voilà. Ouais, plus le mot partenaire.
Partenaire, conseil.
Presque même, on va dire, ami. J'ai des clients depuis 14 ans, depuis le début de l'agence, ils sont toujours là. Ce sont des amis. Voilà.
Très bien, Jérôme. On part sur une pause musicale. On se retrouve dans un moment.
La matinale sur Radion.
Allez, si je vous dis qu'il est 11h54, vous ne me croirez pas. Eh bien si, il est bien 11h54. On est toujours avec Jérôme Casgrain, qui est responsable de... Alors, c'est l'agence, c'est une entreprise...
Non, c'est une agence de communication.
Agence de communication Creative Cocktail. Alors, comment vous pouvez nous parler de la manière dont Creative intègre la durabilité et la responsabilité sociale dans ses pratiques de création?
Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait attention déjà à ce que l'on réalise, comment on le réalise, à réduire tous les coûts électriques, bien tout éteindre à chaque fois, d'aller sur le long, de voir aussi quel type de papier on utilise quand on imprime.
D'accord. Au niveau écologie, tout ça.
Voilà, et puis surtout aussi les distances. Ça sert à rien de faire des impressions à des kilomètres alors qu'on a des gens autour de nous, ce genre de choses. On essaye de guider aussi le client par rapport à ça. C'est pas toujours facile parce que le coût entre en jeu, mais c'est important de le faire.
Est-ce qu'il est conseillé d'éteindre un ordinateur le soir?
Ah oui, oui, de toute façon, c'est éteindre tout ce que l'on peut dessus, essentiel. On ne perd pas les données, hein, donc c'est très bien parce qu'il y a toujours des piles dedans. Mais éteindre tout le matériel dessus. Nous, on a une très petite consommation électrique. On fait très attention à ça. Et même pour aller n'importe où dans les pièces, on éteint chaque fois.
La lumière?
Ah oui, oui, oui.
Oh, ah, oui. Je croyais que vous marchiez à la bougie depuis.
Ah là là, mon cher ami.
Alors, quels sont les projets à venir passionnants pour Creative Cocktail? Avez-vous des objectifs ou des ambitions spécifiques pour l'avenir de l'agence?
Là, comme on est en train de travailler sur des langages d'intelligence artificielle, c'est vraiment de travailler sur des sites, comme on avait fait il y a quelques temps, avec Julio Event, la start-up qu'on a dû arrêter. Mais là, cette fois-ci, c'est de travailler sur des événements intelligents, c'est-à-dire que les gens permettent d'avoir une plateforme qui puisse calculer leur événement, gérer leur événement et faire ce genre de choses. Et puis, des gens qui ont une entreprise commencent à vouloir créer leur nouvelle entreprise, d'avoir un espace qui leur soit dédié, dans lequel ils puissent mettre tous leurs documents, travailler en cloud, et puis créer avec nous leurs documents, les mettre dans des espaces, et puis être guidés au jour le jour. Pour aller plus vite, être plus rapide, et être au bout du jour.
On revient un petit peu à l'ordinateur, le surf sur le net, on s'aperçoit de plus en plus, alors qu'avant c'était très facile, on allait sur le net à n'importe où, n'importe comment, on n'avait pas. Maintenant, on est poursuivi par les publicités, on est poursuivi par les annonces. Est-ce que c'est pas un point noir pour vous ?
Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait attention déjà à tout ce que l'on reçoit comme spam, comme publicité, ce genre de choses. Donc on a des filtres qui permettent de sélectionner, de gérer ça. Il faut savoir aussi, c'est que quand on envoie un mail envoyé avec une pièce attachée représente la consommation d'une ampoule de 60 watts pendant une heure.
D'accord.
Donc on fait très attention à ce genre de choses, à ce que l'on envoie, comment on l'envoie. Plutôt que de faire des envois, des réceptions de mails, on préfère cliquer, prendre du temps à cliquer sur ceux des abonnés, sur les publicités, ce genre de choses, plutôt que de recevoir 10 fois, 20 fois, et qui est chronophage aussi pour nous.
Est-ce que les iCloud sont sécurisés ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment fiable ?
C'est de plus en plus sécurisé maintenant. Ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas penser que là-dessus.
Ouais.
Ça dépend des sociétés, que ce soit Microsoft ou d'autres hébergeurs qui vous proposent ce type de service. C'est bien. Ça veut dire que si vous éteignez l'ordinateur, il n'y a plus rien. Donc, il faut penser aussi à ce genre de choses et savoir où vous situez.
Oui, parce qu'on voit par exemple sur Windows, quelquefois, pour certains, moi je ne le fais pas, mais pour certains qui ouvrent l'ordinateur, qui se connectent sur leur session, ils passent par la connexion iCloud.
Oui, tout à fait.
Et s'il y a un problème, eh bien...
Et puis la connexion s'arrête dans ce cas-là et vous êtes embêté. Moi j'ai eu l'exemple dernièrement d'une société qui travaillait pour des documents imprimés et ils ne pouvaient plus imprimer leurs documents parce que le cloud qu'ils avaient s'est arrêté d'un seul coup.
D'accord.
Il a fallu pour eux attendre 3 jours de remettre en marche tout ceci, perdre les clients, le service et tout. Donc on fait attention à ça.
Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ces problèmes d'iCloud ? Est-ce qu'il est préférable également aussi de sauvegarder en local ?
Ah, nous, on sauvegarde toujours, que ce soit en local, sur des disques durs externes. Faire attention à ne pas se faire cambrioler.
Aussi.
Ce genre de choses. Et de garder, bien sûr, sur des clouds, ça peut être des clouds différents, les données, et d'avoir énormément de mots de passe. Généralement, des gens qui ont des mots de passe mettent des textes, des mots courant et sont très faciles à craquer. On met des mots de passe d'à peu près d'une vingtaine de caractères.
Très bien, Jérôme, ben merci d'avoir participé à cette émission. On peut rappeler les coordonnées de Creative Cloudtail.
Nous sommes 6 boulevard Vaulabel à Auxerre et notre site www.creative-cocktail.fr.
Qu'est-ce qu'on y trouve sur le site ?
On y trouve des exemples de création, d'événements, de choses, et puis des possibilités de vous conseiller, de conseiller les gens, de prendre des exemples pour les aider.
Très bien, Jérôme. Eh bien, encore une fois, un grand merci d'avoir...